On va commencer une petite étude en 3 semaines sur l'Esprit Saint. Et donc on voulait avoir, comme Pierre a annoncé, des temps de prière. Bon, c'est d'une certaine manière, c'est la reprise de la réunion de prière du mercredi soir. Donc c'est rien de forcément ponctuel avec 3 soirs et puis on s'arrête. Mais on aimerait avoir peut-être 3 soirées prières les mercredis où on puisse discuter un petit peu, ou laisser aussi un temps pour des questions et pour de la discussion par rapport à notre étude sur le Saint-Esprit. Et voilà, donc aujourd'hui, je voulais introduire un petit peu le sujet, parler de qui est le Saint-Esprit, de pourquoi nous voulons faire cette étude, et quelques considérations, on va dire, d'ordre général. La semaine prochaine, l'idée, c'est d'étudier le rôle du Saint-Esprit, ce qu'il fait dans l'Église et dans la vie du chrétien. Et puis la 3e semaine, ce serait pour regarder ensemble, prendre un temps pour considérer ce qu'on appelle les dons spirituels, ce qu'ils sont, ce qu'ils impliquent dans la vie du croyant, et pour essayer surtout de déterminer quels sont à chacun nos dons et quelle est notre place dans l'Église en tant que croyant. Et alors, c'est une étude un petit peu qui peut être un petit peu théologique, un petit peu théorique, mais c'est aussi une étude qui est très très pratique, qui s'applique vraiment dans nos vies de croyants et qui est très importante. On va regarder pour quelles raisons. Mais c'est aussi en préparant cette étude, j'étais, je vous avoue, assez on va dire peut-être inquiet ou stressé, parce que c'est un sujet qui cause de nombreuses divisions, malheureusement, dans le corps de Christ, dans l'Église, des différentes positions, des différentes interprétations, différentes manières de voir les choses, différentes manières de pratiquer les choses. Et donc c'est quelque chose qui malheureusement amène souvent à de mauvaises choses, alors que Dieu l'a prévu à la base, nous a donné le Saint-Esprit comme quelque chose de bon. Je pense qu'on va commencer en priant, puis on va regarder tout d'abord dans Jean 14. Donc si vous voulez vous y tourner, on va prier et puis on regardera ce passage dans Jean 14. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ta parole. Merci pour ta vie. Merci parce que tu es bon envers nous, parce que tu es plein de miséricorde et de grâce. Parce que quand nous venons à toi, quand nous te cherchons, Seigneur, tu nous donnes de bonnes choses, Seigneur. Tu nous réponds de manière favorable, Seigneur. Tu es tellement bon envers nous, Seigneur. Tu es tellement plein de richesse et de tendresse envers nous, Seigneur. Et nous te prions pour cette étude sur 3 semaines, Seigneur. Parle-nous à chacun. Enseigne-nous. Que ton Saint-Esprit fasse ce pour quoi tu l'as envoyé, qu'il nous enseigne, Seigneur, qu'il nous conforte, qu'il nous expose les vérités de ta parole, la vérité de qui tu es et de ce que tu veux pour nous. Seigneur, que ton Esprit soit à l'œuvre dans nos vies. Et Seigneur, nous te prions de nous donner une compréhension claire et simple de ce que c'est, Seigneur, que tu enlèves toute incompréhension, toute fumée, Seigneur, ou brouillard, Seigneur, intellectuel, mais que tu nous aides à comprendre simplement qui est le Saint-Esprit. Merci pour ce temps ensemble, merci pour notre Église, merci pour la liberté que nous avons de nous retrouver ici ce matin, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen. Alors, si on se tourne dans Jean 14, on lira à partir du verset 15, mais pour se mettre dans le contexte, Jésus a passé plusieurs années avec ses disciples, avec les apôtres et avec d'autres disciples qui étaient avec eux. Et il arrive un moment de son ministère où il commence à se préparer, où il arrive à la croix. et où il sait qu'il va partir, où il sait qu'il va être enlevé, qu'il ne va plus être avec les disciples. Et les disciples d'avoir vécu pendant 3 ans avec Jésus, ils avaient vécu des choses formidables, des choses incroyables. Ils avaient profité, on va dire, de la présence de Jésus avec eux sur terre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vous dites « Non, si j'avais l'occasion, je préférais pas que Jésus vienne passer du temps avec moi. » Si c'est ce que vous dites, peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit ce matin. Mais même, je pense, pour beaucoup de non-croyants, ils se diraient « Tiens, j'aimerais quand même, si Jésus venait, j'aimerais bien le rencontrer. » Et puis quand on a parlé il y a 2 semaines d'un miracle de Jésus quand il est dans le bateau avec les disciples et qu'il calme la tempête, on voit dans les évangiles tous les miracles, toutes les choses incroyables que Jésus a fait. On voit la puissance de Dieu à l'œuvre dans sa vie. On voit Dieu sur terre. Et les disciples, ils se disaient, on voit dans leur discussion, dans leur vie, ils n'ont pas tout saisi du plan de Dieu. Ils pensent que Jésus va instaurer un royaume politique. C'était ce que les Juifs attendaient de la part du Messie, qu'il vienne, qu'il enlève les Romains, qu'il installe son trône. Et donc ils pensaient à ce pouvoir politique. Ils étaient un petit peu en train de se battre. Ils se disaient, on va voir qui d'entre nous peut négocier pour avoir la place de Premier ministre, le ministre de ceci, de cela. Qui est le plus fort, etc. On voit que Jésus est obligé de les reprendre. Et là, ils arrivent à un moment où Jésus commence à leur dire « Je ne vais plus être avec vous. » Et on peut se dire, se mettre à leur place et se dire qu'ils ont dû être sacrément troublés. On le lit dans les paroles, on voit là où ils vont, une fois que Jésus est crucifié, on voit qu'ils il retourne à la pêche pour certains, il se cache, il renie Jésus, il se disent on a tout laissé pour venir te suivre Jésus et tu vas partir. Ils arrivaient pas à comprendre et ils étaient troublés parce que il y avait aussi. Quand on voit la vie de Jésus, quand on voit les choses qu'il annonçait, le royaume de Dieu, qu'il annonçait quelque chose de grandiose, quelque chose d'incroyable d'une certaine manière, et puis il dit qu'il va s'en aller. Se mettre à leur place, on peut comprendre qu'ils soient complètement troublés. Et on arrive ici dans ce passage. Et il les réconforte. Et il va parler de plusieurs choses. Il va les encourager, leur rappeler des choses, mais aussi leur expliquer de nouvelles choses. Et on lit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Donc Jésus leur fait une promesse. Et il continue plus loin en disant au verset 25, « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. » Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y revient plusieurs fois. On peut continuer dans le chapitre 15, au verset 26. Il dit « Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père ?» Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le début. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. » Et il continue encore dans le chapitre 16, Au verset 7, il dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et on voit derrière au verset 17 et 18 que les disciples sont encore dans le doute. Ils disent, qu'est-ce qui veut dire qu'on va plus le voir, qu'il va revenir? Et donc il y a du doute. Ça persiste, ça reste. Mais Jésus leur a fait donc cette annonce de, ici dans la traduction, il parle du défenseur. Dans d'autres traductions, il parle du consolateur. Et il s'agit donc du Saint-Esprit. Si quelqu'un vous posait la question, qu'est-ce que c'est que ce Saint-Esprit ? Est-ce que vous pouvez me faire un... Il y a le tableau blanc là, est-ce que tu peux me faire une petite présentation sur c'est quoi le Saint-Esprit ? Je lis la Bible la première fois, je tombe dessus, est-ce que vous vous sentiriez capable de l'expliquer simplement ? Oui, non, c'est pas... Oui ? On va voir, effectivement. Mais je vais dire que c'est pour ça la principale raison, ou peut-être la première raison pour laquelle je veux faire cette étude. Parce que c'est une promesse que Jésus a faite aux disciples. Et on va voir dans la suite que c'est le Saint-Esprit qui a lancé ou a donné vie à l'Église, que donc l'Église est dépendante et conduite par le Saint-Esprit, a besoin du Saint-Esprit. Mais simplement, c'est peut-être une question d'éducation. On peut lire la Bible, on peut voir ces choses et passer assez vite dessus. Et quand on commence à regarder de manière détaillée qui est le Saint-Esprit, ce qu'il fait, on s'aperçoit que ça explique énormément de choses dans la Bible, que ça clarifie énormément de passages bibliques, notamment dans le Nouveau Testament, où quand on les lit, on a l'impression qu'il y a ce mot « esprit » qui est lâché un petit peu, mais on comprend pas vraiment. Et donc c'est important. Il ne faut pas que ce soit un mystère pour nous, il faut que ce soit quelque chose de clair, de non intimidant pour nous. Quand on dit qu'on va faire une étude sur le Saint-Esprit, ça peut aussi engendrer une certaine inquiétude, parce qu'il y a peut-être certains d'entre vous ont été dans certaines églises où vous avez vu des choses et vous dites « c'est un peu bizarre, je ne comprends pas trop ce que c'est, je sais pas, c'est un peu mystérieux, c'est de l'esprit ». J'en parlais il y a deux semaines, mais on a du mal à saisir ces choses de l'esprit. On a besoin de l'aide de Dieu pour voir ces choses, mais on a besoin de croire aussi et de savoir qu'elles sont là et de prendre le temps de les regarder. Est-ce que vous êtes déjà dit, moi ça, inconsciemment, un petit peu comme je vous l'expliquais il y a deux semaines quand on parlait de Jésus qui se lève sur le bateau et qui calme la mer. Quand on lit la Bible, est-ce qu'il y a des moments où vous dites c'est quoi ces histoires ? La Bible ne raconte pas ces trucs comme des trucs légendaires, bizarres. La Bible nous les présente comme ces choses se sont passées, se sont vraiment produites et voilà. Et rien qu'en regardant la vie de Jésus ou la vie des disciples, La vie de Paul, le début de l'Église, sans parler d'histoire dans l'Ancien Testament, de choses incroyables là aussi, mais le nombre de miracles et de choses où on se dit, je sais pas trop comment expliquer ce truc-là. Et je vous ai expliqué la dernière fois que j'ai cette tendance un petit peu, je pense, charnelle de me dire, je vais un petit peu le minimiser ou le mettre de côté. Et la réalité de la Bible, la réalité, si nous disons croire en Dieu, en Jésus et dans le Saint-Esprit, et la Bible, c'est que les choses qui sont là sont vraies. Si Dieu, si Jésus, si le Saint-Esprit ont créé le monde, si tout ce que nous voyons, ce dont nous faisons l'expérience est vrai, alors pourquoi ces miracles ne peuvent pas arriver? Pourquoi ces choses incroyables ne peuvent pas arriver? Et une question aussi qui, moi, me trotte souvent dans l'esprit et une chose qui me laisse parfois mal à l'aise et qui me laissait même mal à l'aise en préparant cette étude, c'est me dire, et j'en parlais avec Lindsay, je me disais, mais je veux parler du Saint-Esprit et le présenter pendant 3 semaines, mais je parle de quelque chose dont j'ai pas forcément le sentiment profond d'avoir vraiment fait l'expérience de toute l'étendue de ce qui est dans la Bible, de ce qui est dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous vous dites parfois, pourquoi est-ce qu'on voit ces choses avec les apôtres, avec les premiers croyants? Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment de pas les voir? Et c'est quelque chose, c'est une bonne question. Pourquoi? Et c'est pas quelque chose où on doit se dire que c'était à cette époque seulement et que maintenant on vit dans une époque différente. Moi, je ne pense pas ça. Je pense que ce que nous voyons dans le Nouveau Testament est quelque chose qui était pour eux et qui est pour nous aussi. Et si c'est le cas, pourquoi? Est-ce que j'ai le sentiment, moi, de pas forcément vivre ces choses? Si je ne les vis pas, est-ce que c'est parce que elles ne se produisent pas? Ou est-ce que c'est simplement peut-être parce que, moi, je ne m'y attends pas? Je n'attends pas ces choses-là? Peut-être n'obéis pas à Dieu en répondant à son appel? Ce qu'on voit dans la vie de l'Église, dans la vie des apôtres, dans la vie des premiers croyants, c'est qu'ils répondaient vraiment à ce que Jésus leur avait dit, de dire « Allez, soyez des témoins de moi et faites des disciples. » Et tous leurs zèles, tous leurs efforts étaient concentrés là-dessus. Et pour moi, personnellement, je crois que on va regarder plus en détail le pourquoi de ça, mais que l'Esprit Saint, comme nous avons vu ici avec ce que Jésus annonce à ses disciples, c'est quelque chose qu'il envoie pour accomplir son œuvre et pour nous permettre de faire ce qu'il nous a demandé de faire, et pas simplement pour avoir une puissance, pour faire ce qu'on veut. Et alors on peut regarder quelques passages, quelques autres passages pour juste les avoir à l'esprit, pour voir un petit peu. On reviendra un petit peu sur les détails de ce que Jésus a dit à ses disciples. Mais si on se tourne par exemple dans Galates 5, c'est un passage très connu, le fruit de l'esprit, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ça, c'est ce que l'esprit doit produire en nous, en tant que croyants. Si on regarde un autre passage, je lis quelques passages sans qu'il y ait forcément de de repères dans, ou de liens. Luc 11, verset 13. C'est intéressant parce que c'est un passage qu'on connaît bien où Jésus dit « Frappez, on vous ouvrira », etc., etc. Et dans Luc, on voit qu'il associe à cette idée de demander à Dieu, de chercher vraiment Dieu, de chercher vraiment ce qu'on souhaite avec Dieu, à l'Esprit Saint. Il dit « Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » On peut regarder dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 4 à 11, qui parlent des dons de l'Esprit, qu'on regardera dans deux semaines. À partir du verset 4, « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de services, mais le même Seigneur. » Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné l'Esprit par une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Dans 1 Corinthiens 12, 28 à 31, plus loin, il est dit « Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils enseignants, tous font-ils des miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils, aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence, et ensuite il va parler de l'amour. » Dans Éphésiens 4, le verset 11 à 13, il est dit « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » On peut encore regarder dans Romains 12, les versets 6 à 8. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Il y a un nombre de passages assez incroyables quand on s'arrête sur les choses que fait le Saint-Esprit. On peut regarder dans Actes 2. Jésus leur avait demandé à ses disciples d'aller et d'attendre la puissance qui viendrait de la part du Père, celui qu'il annonce, qu'on a vu dans Jean. Et c'est cette fameuse journée de la Pentecôte, dans le chapitre 2 d'Actes des Apôtres, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On voit plus loin que ces langues étaient des langues de juifs qui étaient présents et qui comprenait que c'était des louanges adressées à Dieu, et Pierre, rempli par le Saint-Esprit, va faire une prédication et 3000 personnes vont venir à Jésus et ce sera le noyau, le début de l'Église. Et on voit ces choses et on voit cette... Alors, il y a énormément de passages... En préparant cette étude, je me disais, on a décidé de faire 3 semaines et voilà, on a arbitrairement décidé 3 semaines. Mais c'est difficile de parler de toutes les choses dont dont nous pourrions parler à propos du Saint-Esprit en 3 semaines. Mais on va faire avec. Et je me réjouis. Je me réjouis parce que dans ma vie de chrétien, il m'arrive de me dire j'y arrive pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire on regarde les choses que la Bible nous dit, on regarde les choses que Dieu nous demande, on regarde les choses que Jésus demande. Jésus, il prend les 10 commandements et dit bon, il faut pas mentir, etc. Mais il faut même pas le penser. Il faut même pas penser mal de son frère. Il faut même pas regarder quelque chose avec convoitise. Il faut même pas. N'allez pas sur Amazon, n'allumez pas votre ordinateur, ne sortez pas dans la rue, faites-vous moine. Et même avec ça, on n'arrive pas. Et si parfois on se dit j'y arrive pas, si parfois on se dit je comprends pas trop, je vois ces choses, je vois les choses qui sont annoncées, et pourquoi est-ce que j'ai pas ça? Et la Bible nous Jésus, Paul nous explique que pour arriver à ces choses, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu vienne en nous et nous donne la force, nous change, nous donne la puissance de faire sa volonté. Nous, avant d'avoir Jésus, nous sommes morts spirituellement et c'est un miracle que nous puissions devenir vivant. Et ensuite, la Bible nous parle de la sanctification, qu'il veut nous changer pour que nous ressemblions à Jésus, que nous soyons comme Jésus. Et c'est là aussi, on se dit, on se dit, ouais, c'est bien gentil, c'est bien beau, c'est paroles dans la Bible, mais et quand on regarde dans Romains, dans le livre de Romains, on voit Paul même qui lutte, qui dit mais j'y arrive pas, je veux faire du bien, j'y arrive pas, j'essaie mais j'ai ma chair qui m'entraîne vers le bas et j'y arrive pas. Paul l'apôtre qui dit qu'il y arrive pas, on n'est pas en mauvaise compagnie quand on avoue ces choses là. Mais qu'est-ce que dit Paul? Comment il le résout dans le chapitre 8 de Romains? Il dit non, gloire à Dieu parce que par la grâce de Dieu, mes péchés, mes erreurs sont pardonnés, mais aussi parce qu'il me donne son Saint-Esprit pour pouvoir changer, pour pouvoir devenir comme il veut que je sois, pour me donner la force de vraiment accomplir ces choses. C'est quelque chose que, encore une fois, en tant que chrétien, nous venons ici, nous entendons ces choses, nous passons dessus, nous avons l'habitude, nous avons peut-être une certaine... nous devenons insensibles à cette vérité. Nous, d'une certaine manière, nous disons, oui, d'accord, oui, à l'Esprit Saint, oui, mais quand même, j'arrive pas. Et pour moi, personnellement, je me dis, j'ai envie de venir à Dieu et de lui dire, je veux vraiment ces choses. Est-ce que vous voulez vraiment ces choses? Parce que c'est quelque chose qu'il a promis. C'est quelque chose qu'il a dit à ses apôtres qui étaient troublés, qui se disaient, on n'y arrive pas, on comprend pas, qu'est-ce que c'est, eux non plus n'arrivaient pas à réconcilier ce qu'ils lisaient, ce qu'ils attendaient avec ce que Jésus était en train de leur annoncer. Comme peut-être pour nous, on dit je lis ces choses et j'ai du mal à les réconcilier vraiment avec ma vie. Mais Jésus leur dit, vous inquiétez pas, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est incroyable aussi parce qu'il leur dit non seulement qu'il va leur donner le Saint-Esprit, mais il leur dit c'est mieux pour vous que je m'en aille et que vous ayez le Saint-Esprit. Combien de fois nous nous disons, ah si seulement il y avait Jésus. Est-ce que vous dites ça parfois? Est-ce que vous dites parfois, peut-être ce serait mieux s'il y avait Jésus ici pour nous enseigner que Pierre ou Tonio? Ce serait mieux ou pas? Est-ce qu'on se dit ça? Est-ce qu'on se dit, quand je suis en train de prier, s'il y avait Jésus avec moi, une réunion de prière avec Jésus, ce serait vraiment mieux quand même? Non? une étude biblique avec Jésus, ce serait plus simple. Il n'y aurait pas de passage où on dit bon, on ne sait pas trop ce qu'il voulait dire, etc., etc. On serait tranquille. Si des gens venaient nous attaquer, venaient nous dire vous êtes ridicule de croire en la Bible, et je disais bon, Jésus, je te laisse lui parler, c'est bon, je suis là, je prie pour toi, vas-y. Et tu peux lui révéler tous ses péchés, tous les trucs cachés de sa vie, et il va être là, mais quitte. Et c'est bon, il va faire des miracles, et comme ça, j'ai pas à moi. On pense ces choses, et Jésus lui-même nous dit, c'est mieux pour vous que vous ayez le Saint-Esprit. Est-ce qu'on le croit vraiment, ça? C'est mieux pour nous que d'avoir Jésus avec nous. Et Jésus, il leur dit, il va vous conforter, il va vous enseigner les choses. Jésus leur dit, il y a des choses que je veux vous enseigner, des choses que je veux vous dire, mais vous n'êtes pas prêts maintenant, mais l'Esprit Saint, quand il sera venu, va vous révéler, va vous apprendre ces choses. Quand nous nous réunissons ici le dimanche matin, quand nous lisons notre Bible à la maison, quand nous sommes à une étude biblique, quand nous prions, si nous comprenons, si nous recevons quelque chose de la part de Dieu, c'est par le Saint-Esprit, par son œuvre dans nos vies. C'est d'ailleurs quelque chose de marrant. Est-ce que vous rendez compte? Quelqu'un de complètement non-croyant pourrait venir et d'une certaine manière vous annoncer ces choses. Pourrait venir lire la Bible et vous dire l'Esprit Saint c'est ça, il fait ça, la Bible nous dit qu'il fait ça, etc., etc. Et quand je viens à vous ce matin, si l'Esprit Saint ne rend pas la parole de Dieu vivante dans chacune de nos vies, ne nous révèle pas à chacun quelque chose, ne nous parle pas tous individuellement, moi je peux rien. Moi j'ai pas de, c'est pas ma capacité. Vous me connaissez, je suis pas super docteur en théologie, je suis pas etc etc. Dieu dit, j'ai choisi les choses simples du monde pour confondre les sages. Et c'est par son esprit que nous recevons, c'est par son esprit, nous devons être dépendants sur son esprit pour ces choses. Et c'est formidable, ça doit nous donner un espoir incroyable de nous dire, mais il est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies. Si nous croyons en Jésus, la Bible nous dit que nous avons l'Esprit Saint en nous. Et parfois, on tombe aussi dans un excès, on va dire, de... On se concentre en tant qu'humain sur le miraculeux visible. Comme je vous disais, on voit les choses visibles. Donc quand on lit ce dont parle Jésus, par exemple, on passe un petit peu à côté. Et quand on voit plus tard les apôtres et les miracles visibles, là on tique et on se dit ça, c'est ce qu'il me faut, c'est là qu'il y a vraiment le Saint-Esprit. Mais l'Esprit Saint est à l'œuvre dans nos vies, de la plus ordinaire des manières. C'est intéressant d'ailleurs, en écoutant et en préparant cette étude, j'avais jamais vraiment pris le temps de réfléchir au fait que d'une certaine manière, alors c'est dans le cas de Jésus, que son ministère commence quand l'Esprit Saint vient sur lui et qu'il reçoit la puissance du Saint-Esprit. Quand il va voir Jean, que Jean le baptise et que la colombe descend, on nous dit que c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Jésus. Dieu dit, c'est lui mon fils bien-aimé. Et c'est à partir de ce moment-là que son ministère et les choses incroyables qu'il a faites commencent. Mais en même temps, combien de temps il a passé là encore une fois, on s'attarde sur les choses miraculeuses, mais tout le reste de sa vie, il avait la puissance du Seigneur. C'est Jésus. Il avait la puissance du Seigneur sur sa vie, et on voit comment il a vécu. Et c'est des choses normales, c'est des choses simples, c'est des choses de la vie de tous les jours. Et donc l'Esprit Saint peut à la fois donner ces choses miraculeuses visibles, mais aussi des choses qu'on ne voit pas, qu'on pourrait dire ordinaires, mais qui sont en réalité un miracle spirituel que nous ne voyons pas, qui est que Dieu nous donne la vie. C'est ça le plus grand miracle que Dieu accomplit, de rendre quelqu'un qui est mort spirituellement, de le ramener à la vie, de le réconcilier avec lui alors qu'il n'avait aucun espoir, qu'il était condamné, séparé de Dieu. Il nous réconcilie à lui et ensuite il nous donne son Saint-Esprit pour donner. On a vu le fruit de l'Esprit qui doit se manifester dans nos vies. C'est pas quelque chose forcément de miraculeux. Vous savez comme moi que c'est peut-être souvent difficile d'avoir le fruit de l'Esprit dans nos vies, peut-être suivant vos personnalités, etc. Mais il y a quelque chose de simple et de bon. On peut tomber dans une sorte de zèle un petit peu. Moi, où on est là, il faut que j'ai le Saint-Esprit, qu'il se passe quelque chose de vraiment incroyable. Mais la Bible nous dit simplement que si vous croyez en Jésus et que vous le recevez par son Saint-Esprit, il vous donne son Esprit. On verra dans la semaine prochaine les différentes relations que l'Esprit-Saint peut avoir avec nous, à savoir qu'il est avec nous, qu'il est en nous quand nous croyons en Jésus, quand nous sommes sauvés, mais qu'il y a aussi ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, ou le fait qu'il vienne sur nous et qu'on reçoive une puissance, et on regardera les détails de ça. Mais nous avons, si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons l'Esprit-Saint en nous pour nous aider. Si nous sommes inquiets, on peut revenir à ce que Jésus a dit. Il est avec nous, il est en nous. Il va nous enseigner les choses que Jésus veut que nous comprenions. Il va nous expliquer la Bible. Il va nous donner ce dont nous avons besoin. On voit dans la vie de Jésus comment il s'occupe de ses disciples, comment il est avec eux, comment il les réconforte, comment il les défend, comment il les encourage, comment il les reprend, comment il échange avec eux, comment il leur apprend des choses. L'Esprit-Saint veut avoir ce même genre de rapport avec nous, dans nos vies. Quelque chose de simple et de naturel. Alors, avant de terminer ce matin, pour répondre simplement à la question « Qui est le Saint-Esprit ?» Pour certains qui ne sauraient pas, qui diraient « Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit ?» Alors, tout d'abord, si jamais vous voyez Saint-Esprit ou Esprit-Saint, on est juste en interchange, hein, c'est pas pour ceux qui se demanderaient. Mais le Saint-Esprit est la troisième personne ou une des trois personnes de la Trinité. Il est Dieu. La Bible nous présente un Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est un mystère, c'est quelque chose qui, à notre compréhension rationnelle, a du mal à comprendre. On dit ces trois choses. Vous pouvez y passer le reste de votre vie. Je ne sais pas si vous arriverez vraiment à comprendre. La Bible nous dit il y a Dieu en trois personnes. On est obligé de l'accepter. Et la Bible nous le présente à plein d'endroits. Et c'est quelque chose là aussi de très intéressant de vous dire, parce que peut-être vous vous dites, dans l'Ancien Testament, non, mais il y a Dieu, juste Dieu, quoi. Mais le premier passage dans la Bible, dans Genèse, si on regarde le texte originel, les mots qui sont utilisés pour parler de Dieu en train de créer le monde, c'est le mot Elohim. Et le mot Elohim est un mot pluriel qui veut dire trois ou plus. Elle, c'est Dieu singulier, et là, c'est Dieu en deux personnes, en double, et Elohim, c'est en trois personnes. Le premier verset de la Bible nous présente Dieu en trois personnes. Il y a des références, si vous voulez, si vous dites, tiens, j'y avais jamais pensé, allez regarder, vous cherchez un petit peu en ligne une Bible d'étude, vous cherchez Elohim, et vous allez regarder les références et voir où ça parle. Si vous vous demandez, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi on dit, pourquoi on parle, c'est saint, 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 Dieu trois fois saint. C'est bizarre. Tout d'un coup, il y a des choses qu'on a, on vient à l'église, on a l'habitude, on n'y pense jamais. On se dit, c'est bon, oui, Dieu trois fois saint, pourquoi pas quatre fois saint? Il est peut-être cinq fois saint, mais peut-être qu'il c'est la Trinité. Alors on n'a pas trop de temps, donc on va pas s'attarder là-dessus, mais c'est vraiment formidable de regarder ça et de voir tous les passages dans l'Ancien Testament qui révèlent, sans qu'on le voie vraiment, ces choses. Et donc le Saint-Esprit est en tant que personne de la Trinité est une personne. On peut souvent, et c'est un danger, avoir l'impression que le Saint-Esprit, c'est une force ou une puissance. Vous l'avez peut-être, si vous êtes déjà venu à l'Église depuis un certain temps, vous comprenez cette chose-là, vous vous dites, oui, alors c'est pas une puissance ou une essence ou c'est le début souvent de certaines hérésies dans l'histoire, dont on n'a pas besoin de parler, mais à partir du moment où on renie un peu soit le Saint-Esprit, qu'il est vraiment Dieu ou une personne, et où qu'on le change, on dit bon, c'est plutôt une puissance un peu impersonnelle ou quelque chose comme ça, on tombe dans des problèmes théologiques, ça pose plein de problèmes, etc., etc. Mais le Saint-Esprit est une personne et nous devons comprendre ça, parce que ça change notre rapport. Même moi, je me suis dit, mais j'ai pas l'habitude de j'ai souvent l'habitude, peut-être quand je prie, de prier à Jésus ou à Dieu le Père. Quand je prie pour être rempli du Saint-Esprit, je vais peut-être dire au Saint-Esprit, remplis-moi. Mais même là, souvent, on va dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. On peut prier au Saint-Esprit, lui dire de venir en nous. C'est une personne qui nous entend. Alors le passage que Jésus nous a présenté et ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, c'est que le Saint-Esprit veut rendre témoignage surtout de Jésus et veut glorifier Jésus, et que son objectif donc c'est que nous venions à Jésus. Mais il est là. Et dans la Bible, on voit les caractéristiques d'une personne. On va pas regarder tous les versets, mais le Saint-Esprit a la connaissance et peut examiner les choses dans 1 Corinthiens 2. C'est lui, on a vu, qui donne les dons spirituels selon sa volonté dans 1 Corinthiens 12. Dans Romains 8, on voit que le Saint-Esprit pense. Dans Romains 15, il est question du Saint-Esprit qui nous aime. On a vu dans Jean qu'il témoigne de Jésus, qu'il veut exalter Dieu le Père. Et il est décrit de manière très précise avec des pronoms personnels qui parlent d'une personne. Il n'est pas, c'est pas une chose, c'est lui. On voit qu'il agit comme une personne, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit dans Actes 13, dans tout le livre des Actes, d'ailleurs on voit souvent des références où les apôtres ou les croyants disent « oui, le Saint-Esprit nous a dit de ne pas faire ça ou de faire comme ça ». Il intercède pour nous, il prie pour nous, nous explique Romains 8, il nous enseigne comme on a vu dans Jean ou dans 1 Jean 2, avec Paul, dans le livre des Actes, on voit qu'il dirige Paul et lui il a interdit parfois certaines choses. Parfois il conteste ou il discute avec, enfin discute, il reprend l'homme. Il peut être traité comme une personne. On voit qu'il peut être attristé. Dans Éphésiens 4, il est dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, de ne pas insulter le Saint-Esprit. Dans Hébreux 10. De ne pas mentir au Saint-Esprit dans Acte 5. On voit l'histoire d'Ananias et Saphira qui mentent à propos de leur don à l'Église. Et les apôtres qui disent « Mais pourquoi est-ce que vous avez menti à Dieu, vous avez menti au Saint-Esprit » Et dans Matthieu 12, il est question du blasphème contre le Saint-Esprit. Le fait de le rejeter ou de ne pas le reconnaître pour ce qu'il est. Et on voit qu'il est, il est identifié au même niveau que Dieu le Père et que Jésus-Christ. Il n'est pas placé dans une situation inférieure ou un. C'est le même. On le voit dans de nombreuses citations, notamment dans les lettres de Paul ou dans la manière dont Jésus nous demande de baptiser. Et souvent, nous aussi, là, on peut, de manière inconsciente, dire « Alors oui, au nom du Père, du Fils et puis du Saint-Esprit, un peu... » Et on voit que Paul, dans certaines de ses bénédictions ou certaines des choses qu'il va dire, il n'a pas un ordre spécifique. Il considère le Saint-Esprit au même niveau que Dieu le Père et que Jésus-Christ. Et donc, le Saint-Esprit est une personne et le Saint-Esprit est Dieu. Il appartient à la Trinité divine, comme on l'a dit, alors... Il y a énormément de passages où on peut voir ça. On lui attribue les caractéristiques divines. Il est éternel, nous dit Hébreux 9, 14. Il est omniscient. Il a toute connaissance, nous dit Actes 18 ou 1 Corinthiens 2, 10 et 11. Il est omniprésent. Le psaume 139, verset 7, nous parle de ça. Il est omnipotent. Il a la puissance. On peut voir dans Luc 1, 35. Et on peut voir les œuvres de Dieu qui sont accomplies par le Saint-Esprit lors de la création. Je vous disais le pluriel. On voit qu'il y avait un vide et un chaos avec l'eau et l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus. Dans Psaume 104, verset 30, il est aussi question de la création par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la vie. On peut le voir dans 2 Corinthiens 3, 6. Dans Jean 6, 63 ou dans Romains 8, 10, le Saint-Esprit a inspiré la Bible, nous explique 2 Pierre 1, 21. Je vous donne ces versets. Si vous avez des questions, si vous entendez ces choses et vous dites j'aimerais bien savoir plus, venez me voir après, je peux vous donner les références ou venez mercredi soir avec vos questions préparées et on pourra en discuter. Le Saint-Esprit travaille avec le Père et le Fils. Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, on voit des versets qui font le lien aussi entre Dieu et le Saint-Esprit. Où il y a peut-être un verset de l'Ancien Testament qui parle de Dieu, qui dit « Dieu a fait ci ou fait ça », et le Nouveau Testament qui cite le même verset en disant « C'est le Saint-Esprit qui a fait ça ». Il y a différents passages... Dans Jérémie 31, il est question de l'alliance faite par Dieu. Et Hébreux 10, versets 15 à 17, nous dit que c'est l'Esprit Saint qui a fait cette alliance. Le psaume 95, les versets 7 à 11, parle de la voix de Dieu. Et Hébreux 3, versets 7 à 9, indique que c'est le Saint-Esprit qui parle, là aussi. Et on a aussi des passages dans le Nouveau Testament où il y a un lien direct entre Dieu et le Saint-Esprit ou dans l'esprit des apôtres, c'est équivalent. On a vu dans Actes 5 l'histoire de Ananas et Saphira qui mentent et je crois que c'est Pierre qui leur dit mais vous mentez à Dieu et puis plus loin il dit vous avez menté à l'Esprit Saint et donc on voit l'équivalence. Et puis Dieu interagit avec nous par le Saint-Esprit. Dieu nous assure de notre salut par l'Esprit. Romains 8 en parle. Il nous aide à devenir comme Jésus. Il nous change. C'est Dieu à l'œuvre dans nos vies. Dans 2 Corinthiens 3. Donc Dieu est un Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et on veut, cette semaine et les deux semaines prochaines, réfléchir à ça. Et c'est vraiment, pour moi notamment, comme je vous disais, je lis souvent le Nouveau Testament et je me pose des questions. Je me dis, mais comment ces choses-là font le lien avec ma vie? Et quand on regarde... les évangiles et actes des apôtres, c'est intéressant de regarder et de comprendre. On a les évangiles qui nous parlent de Jésus Et notamment l'évangile de Luc qui nous dit, Luc a écrit l'évangile de Luc et l'acte des apôtres. Et lui le présente comme une continuation. Il dit, Jésus a commencé à faire ça et voilà ce qui a continué à être fait dans l'acte des apôtres avec l'Église et l'œuvre du Saint-Esprit par l'Église. Et d'une certaine manière, on pourrait presque, on a les évangiles qui nous présentent Jésus et on a acte des apôtres qui serait à la limite mieux nommé acte de l'Esprit Saint. L'œuvre de l'Esprit Saint, c'est et de faire une étude, on en a déjà parlé, mais de regarder le livre des actes et de surligner à chaque fois que vous voyez l'Esprit qui dont il est question, qui est référencé ou dont le texte parle, c'est vraiment révélateur. Et de voir aussi la place de la prière, de voir les deux ensemble, c'est quelque chose de très fort. Et la semaine prochaine, on regardera un petit peu plus en détail, mais de vraiment comprendre l'importance de l'Esprit Saint dans nos vies et dans la vie de l'Église. Je vous disais tout à l'heure, quelqu'un pourrait venir là et parler, vous présenter la Bible sans être sauvé. Si l'Esprit Saint n'est pas à l'œuvre au milieu de nous, par nos forces, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons besoin de lui, nous avons besoin de sa présence. Nous sommes, sans l'Esprit Saint, nous sommes comme les disciples qui sont perdus, qui sont désœuvrés. On voit Pierre dans les évangiles qui nous est présenté comme quelqu'un de zélé, de fort, de capable dans sa chair, qui veut tout donner et qui finit de manière entre guillemets horrible jusqu'à ce que Jésus le restaure. Mais on voit qu'il renie Dieu, il n'arrive même pas à dire qu'il croit en Jésus, un enfant. Il le rejette, il retourne pécher, il laisse tout tomber, il dit c'est bon, j'y arrive pas. Et Jésus qui le restaure et qui dit non, il y aura l'Esprit Saint. Et on voit le début de l'Église dans Acte 2, où Pierre va enseigner quelque chose d'incroyable, quelque chose, c'était pas un théologien, il va donner une étude théologique sur l'histoire d'Israël pour le peuple qui est face à lui. Et 3000 personnes vont venir à Jésus, et c'est pas parce qu'il y avait quelque chose, c'était pas quelque chose que Pierre a fait dans sa chair, c'était parce que Pierre était soumis à l'Esprit Saint. Et en tant qu'Église, nous avons besoin de cette puissance. Paul, dans Galates, reprend les Galates et dit, mais vous êtes fous, vous voulez continuer par la chair, vous voulez faire par votre puissance, vous voulez faire par vos capacités, vos œuvres sans l'Esprit Saint. Vous avez commencé par l'Esprit Saint et vous voulez continuer sans lui. Vous êtes fous. Et nous aussi, nous sommes fous si nous pensons que nous pouvons être l'Église, être des croyants qui obéissant à ce que Jésus veut, nous demande, sans son Esprit. Alors, je me réjouis pour moi et pour nous de ce que Dieu va nous montrer pendant cette étude, ce qu'il nous a montré aujourd'hui. Et si vous avez le temps, prenez un peu de temps pour peut-être lire certains passages, rechercher ces passages qu'on a regardés ce matin, les lire cette semaine, vous poser des questions, et venir avec vos questions, venir avec une attente que Dieu vous montre, que Dieu vous explique, que Dieu vous rende ces choses claires. Si vous dites le Saint-Esprit, c'est quelque chose de un peu... je ne sais pas trop ce que c'est, si c'était votre impression, échangeons, ne laissez pas ça rester le cas. Et prions pour que Dieu nous remplisse tous du Saint-Esprit. On verra les détails de ça la semaine prochaine, dimanche prochain. Mais ayons une attente d'un Dieu qui nous a promis son Saint-Esprit. Jésus lui-même nous a dit, c'est mieux pour vous si je vous envoie le Saint-Esprit. Et il dit, si vous me demandez, est-ce que je vais vous donner quelque chose de mauvais? Non, si vous me demandez, je vais vous le donner. C'est simple. Et on voit la simplicité et on voit le fruit de l'Esprit, on voit la paix, la joie, les choses que Dieu veut nous donner par l'Esprit Saint dans nos vies. Réjouissons-nous pour ces choses, soyons dans l'attente de ces choses de la part de Dieu pour ces semaines qui viennent, mais aussi pour nos vies, pour la suite de nos vies, chacun et en tant qu'Église. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta promesse d'envoyer ton Saint-Esprit. Et Seigneur, je veux recevoir ce que tu as promis. Je crois l'avoir déjà reçu, Seigneur, mais ta parole nous dit d'être rempli de manière continuelle, d'être rempli à nouveau du Saint-Esprit. Et Jésus, je veux être ouvert à ce que tu as pour moi dans ma vie. Je veux pas que les choses dans ta parole soient des choses qui m'inquiètent ou qui me rendent mal à l'aise, que j'ai du mal à les expliquer, ou que si les gens me demandent, je sois nerveux ou sur la défensive, Seigneur. Mais je veux avoir ce que tu m'as promis, tu nous as promis. Et nous te remercions, tu nous dis que c'est encore mieux que le Saint-Esprit soit là pour nous, et nous te remercions pour ta parole, pour l'histoire de l'Église, pour tout ce qui nous a précédés. Nous te remercions de ce que tu es mort et ressuscité pour nous, et de ce que nous puissions être sauvés et venir à toi, de ce que tu nous rends la vie par ton Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, viens remplir nos vies, viens sur nous. Viens nous enseigner, nous révéler, nous faire comprendre les choses de la parole de Dieu. Viens nous être présents dans nos vies. Et prépare nos cœurs, ouvre nos vies, Seigneur, à des choses simples, des choses normales, Seigneur, des choses belles dans nos vies de tous les jours, et aussi, Seigneur, à des choses miraculeuses, Seigneur. Si c'est ta volonté, nous voulons être ouverts à ce que tu as pour chacun d'entre nous, et nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de plus de toi. Merci pour tout, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies, sois glorifié ici dans notre assemblée. En ton nom, nous prions. Amen.